en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Quand on regarde ses œuvres, on sent tout de suite sa filiation avec les grands noms de la photographie africaine, Seydou Keïta, Mama Kassé ou Malik Sidi Bé. Ses autoportraits, toujours très léchés, donnent envie au spectateur d'enfiler lui aussi son costume et de se mettre à sa place au cœur de l'histoire. En 2014, la série Diaspora honorait la mémoire d'Africains hors d'Afrique et leur rapport à l'histoire du monde. En 2017, Liberty témoigner des mouvements de protestation des Noirs à travers l'histoire. Et voici qu'arrive Allegoria, qui célèbre cette fois la beauté de la nature en alertant sur les risques de sa disparition. 15 autoportraits, exposés ce week-end à Paris dans le cadre de Paris Photo, la première foire internationale dédiée à la photographie. À la manœuvre, la galerie Mania A, qui est liée à 5 continents éditions, publie à cette occasion la première monographie consacrée à ce photographe autodidacte, Omar Victor Diop, est notre invité aujourd'hui. Paris Photo, c'est jusqu'à dimanche, 14 novembre, au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars à Paris. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Omar Victor Diop.
Bonjour Jean-François.
L'idée de cette série de 15 images, elle est partie d'un texte, elle est partie de mots. Ceux de l'écrivaine américaine Lydia Millet, dans un article paru dans le New York Times. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce texte ?
Ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est j'ai été saisi d'une soudaine mélancolie. Parce que, en fait, j'ai réalisé ce que ça représentait, cet effondrement de la biodiversité à l'échelle planétaire et ce que on perdait finalement en potentiel d'émerveillement pour les générations futures.
Child's Menagerie, c'était le titre oui. de cet article. Quel est le lien que Lydia Millet faisait avec l'enfance ?
Le lien, c'était par rapport aux contes d'enfance et comment finalement, à travers ces contes pour enfants, on apprend le monde, on apprend ce qu'il y a de fascinant dans cette biodiversité. Et au-delà de toutes les conséquences de l'activité humaine, c'est quand même une tragédie que de détruire un si beau monde.
Oui, donc il faudrait pas que seuls les contes d'enfance rappellent aux futurs oui. habitants de la Terre que cette biodiversité-là existe. Et donc l'idée, Omar Victor Diop, c'était pour vous de créer des images qui fassent appel à ces émotions d'enfant, à notre âme d'enfant. C'était ça l'idée de base.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, si vous voulez, on est tous un peu, je dirais, désensibilisés finalement par rapport au discours militant pour l'environnement, parce que le ton est souvent à la réprimande, on nous met un peu le nez dedans. Et l'idée, c'était d'utiliser finalement une de mes armes principales en tant qu'artiste, une de mes munitions principales, l'empathie, et essayer d'en provoquer.
Voilà, donc avec effectivement un côté très très joyeux, très coloré, on va y venir. Et puis avec évidemment vous-même au centre de la composition, comme pour les séries Diaspora et Liberty qu'on évoquait à l'instant. Pourquoi à nouveau ce choix de l'autoportrait, Omar Victor Diop ?
Je me rends compte que quand c'est quelque chose qui vient de mes sentiments, j'ai souvent besoin d'accompagner cette idée avec ma personne. J'ai l'impression d'investir beaucoup plus que juste de la technique.
Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs de visages africains parmi tous ceux qui s'affichent justement dans les médias, dans la sphère publique d'une façon plus générale pour défendre l'écologie.
Oui, absolument. C'est aussi une des motivations derrière cette série. Non seulement par le choix de ma personne, mais aussi dans le stylisme. J'avais envie de voir un peu des hommes en boubou et avec des chéchias, parce que c'est aussi un sujet qui les concerne.
Bon, alors il y a effectivement vous, et puis il y a tout le reste hein, de la composition de la photo. Alors on vous connaît suffisamment, Omar Victor Diop, pour se douter que vous avez rien choisi au hasard, rien n'est laissé au hasard dans ce que vous faites. Ça veut dire que les animaux qui vous accompagnent sur les photos, les plantes, donc la faune et la flore, pour pouvoir les choisir, vous vous êtes énormément documenté.
Je me suis énormément documenté, et puis aussi j'ai passé beaucoup de temps à chercher les parfaites illustrations, parce que les éléments floraux et les éléments, les animaux qui sont sur cette série sont en fait ont été découpés digitalement de scans de manuels d'histoire naturelle du 18e et 19e siècle. Et en fait, dans la composition, je m'arrange toujours pour avoir un bon mix entre des espèces encore existantes, des espèces en danger et des espèces disparues.
Donc c'est du collage.
C'est du collage digital.
Alors, Oui, c'est du collage et c'est de la colorisation, forcément, puisque oui, si forcément. C'est les manuels du 18e au 19e siècle, on n'avait pas l'imprimerie couleur.
C'était des dessins à l'aquarelle ou au crayon où il y avait la couleur.
D'accord. Et donc vous les avez modifiées ces couleurs-là parce que elles éclatent hein, devant le regard des spectateurs.
Bon, alors sans livrer les secrets de fabrication, oui, effectivement, on rajoute toujours un peu de drame au moment de la composition digitale. Oui.
Mais comment vous avez choisi justement les uns et les autres ces plantes et ces animaux?
Alors, c'est il y a plusieurs critères. Il y a d'abord les critères d'échelle. Il faut que les échelles puissent correspondre. Bien entendu, il y a le critère esthétique. Et puis aussi, il y a le. J'essaie de faire coexister des espèces qui ne vivent pas dans les mêmes environnements et qui ne vivent pas non plus dans l'environnement de ces messieurs en boubou que j'incarne. Parce que justement, dans notre absurdité destructrice, nous les humains, on pousse le vice jusqu'à territorialiser les problématiques, quoi.
C'est-à-dire oui, que par exemple, là, il y en a une photo là devant mes yeux. Il y a un ours blanc. On l'imagine assez peu au Sénégal.
Oui, voilà, justement. Mais il s'agit justement de décloisonner. C'est Bob Marley qui disait que quand il pleut sur toutes les toits, sur tous les toits. Et donc, oui. C'est important de se sentir concerné par toutes les facettes de ce challenge écologique.
Oui, et ça s'adresse effectivement au monde entier. Par exemple, il y a une photo de laquelle vous tenez entre vos bras un dodo. Donc là, moi, en tant que natif de la Réunion et de l'océan Indien, l'île Maurice connaît ça aussi. Évidemment, le dodo, ça frappe tout de suite les esprits. Et une fois que vous avez donc ces différents éléments, c'est-à-dire vous, les animaux et les éléments floraux, comment est-ce que vous composez chacune de ces photos,
alors,
Victor Diop?
En termes de prise de vue, au moment de la prise de vue, bien entendu, je n'ai rien entre les mains. Tout est dans ma tête. Donc, en fait, la composition est faite dans ma tête et il s'agit de s'en rappeler parce qu'il va falloir après insérer... il va falloir faire procéder au collage.
Donc, vous posez vos mains de la façon dont vous avez imaginé la photo finale.
Voilà, exactement. Et donc, c'est la première étape. Il y a aussi le stylisme. Certaines de ces tenues, je les ai faites. Il y a d'autres tenues que j'ai pu obtenir auprès de designers africains, enfin dakarois et parisiens. Et puis, il y a aussi quelques éléments de ma garde-robe de tous les jours.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment un dosage extrêmement, extrêmement composite. Et c'est la couleur, à chaque fois, c'est l'origine du vêtement qui guide votre choix. Comment ça se passe?
C'est plutôt ce que le vêtement représente et comment le vêtement aussi travaille à l'interpellation, finalement, du public. C'est-à-dire que je veux que le jeune dakarois basketteur se reconnaisse dans la photo où je suis en hoodie et aussi enfin j'essaie de diversifier les rôles que je joue.
Et si vous avez choisi 15, c'est justement parce que ça correspondait à l'ensemble de l'éventail possible?
Non, c'est un nombre qui, enfin, c'est à ce stade-là que j'ai senti que j'en avais dit assez. Et puis bon, je me suis fait plaisir, quoi.
Bon, alors vous n'avez pas encore dit, Aubin Victor Diop, mais il me semble que vous travaillez tout seul. C'est-à-dire que, donc vous étiez donc tout seul dans votre studio photo. Alors comment on fait pour se faire des autoportraits quand on travaille tout seul? Vous pourriez avoir une batterie d'assistants avec vous.
Oui, mais l'expérience ne serait pas la même et je suis assez égoïste d'ailleurs sur cette expérience. C'est des moments pour moi qui peut-être importent plus que l'image. J'ai pris cette habitude avec la série Diaspora qui était la première dans laquelle je faisais des autoportraits. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'invoquer une présence. C'est presque, bon, sans faire de la spiritualité du dimanche, c'est des moments qui sont très importants et il y a vraiment une communion avec une idée qui se passe dans le studio. Et je peux pas avoir de témoin, non.
Et donc, vous travaillez avec des appareils photo à retardateur, j'imagine, c'est
une
ça?
Télécommande.
Une télécommande. Ah, d'accord. Et vous faites donc pas tant d'aller-retour que ça, finalement?
Si, quand même, si. Parce que c'est quand même bien d'aller voir au dos de la caméra. caméra, oui, c'est important.
Bon, je suis très curieux, pourquoi le fond noir ?
Le fond noir, parce que ça permet de guider le regard, ça permet aussi de rajouter un certain drame. Et c'est pas vraiment un noir, c'est un faux noir, en fait, c'est un gris très foncé. Et c'est aussi, c'est un peu, on est dans le thème de la dernière, du dernier jour. Donc c'est bien de rajouter une note de mystère comme ça.
Solution le réchauffement climatique et ses conséquences. Sécheresse, érosion côtière, disparition d'espèces, famine, pauvreté, maladie, exode, migration. Dégloulé, mon warlé. Pourtant, n'y won, balégi, n'y tok, n'y ka. Balégi, drama goul si dunia, moulé. N'y fête sa oujante, n'y si jo. Pourtant, sunubi, n'darte, moussiba. Bunyawe, si n'yon lay. Na meti kon gañi waxta war nañu gañi déroulé mo wax lé la faxé dañu dajé won waxta cop climat wante ba légui ñu ngi wut solution mu jafé lol ci dunya war nañu.
Climat, Omar Penn dans VMDN sur RFI avec le photographe Omar Victor Diop qui présente sa nouvelle série Allegoria jusqu'à dimanche prochain à Paris dans le cadre du rendez-vous annuel Paris Photo. C'est au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, donc vraiment immédiatement au pied de la Tour Eiffel. Et c'est la galerie Magnin A, André Magnin, qui vous représente. Et André Magnin s'est allié aux éditions 50 ans pour publier à cette occasion la première monographie qui vous est consacrée, Omar Victor Diop. Grand moment, j'imagine pour vous, c'est le début de quelque chose.
C'est un grand moment, et puis c'est 10 ans pile après ma première exposition, c'est 10 ans de photos, quoi. Donc oui, c'est un grand moment. Oui.
Et elle regroupe donc ces trois séries d'autoportraits, donc Diaspora, hein, que vous avez créé en 2014, Liberty, 2017, et donc maintenant cette nouvelle série Allegoria. Nous sommes donc dans une trilogie, est-ce que ça veut dire que les autoportraits, c'est fini ?
Je ne sais pas. C'est les idées qui nous choisissent, c'est pas nous qui les choisissons. Et à la fin de Diaspora, je m'étais juré que c'était fini les autoportraits.
Ouais.
Et me voilà là à la troisième série. Je ne sais pas.
Donc ça pourrait être une tétralogie, une pentalogie. Et l'avenir le dira.
Une odyssée.
Voilà. Mis à part l'autoportrait, Omar Victor Diop, qu'est-ce qui unit ces trois projets Diaspora, Liberty et Allegoria?
Alors, ce qui unit, même si je m'adresse à au public le plus large possible. C'est aussi le journal de mes réflexions sur finalement la l'odyssée de l'homme noir et sa participation, les enfants d'Afrique et leur contribution à la grande conversation humaine. Et c'est peut-être ça, oui, qui est le fil d'Ariane.
Alors, Diaspora, Liberty, Allegoria, et c'est une photo d'Allegoria qui figure sur la couverture de cette monographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette photo-là, et évidemment de la décrire, puisque nous sommes à la radio?
Alors, pourquoi j'ai choisi cette photo en particulier? C'est parce que je pense que de toutes les allégories, c'est celle qui représente plus, le plus ce que le rapport que j'aurais, que j'aimerais voir s'établir entre ces animaux qu'on appelle les humains et le reste des animaux. Un rapport de protection, un rapport de... il faudrait qu'on arrête de penser que cette planète est un jardin qui nous est tombé dans les mains et que nous en sommes les propriétaires. Nous ne sommes que des locataires et l'éviction est peut-être très proche.
Et donc, vous êtes là comme ça, debout, très droit, vous regardez l'objectif hein, de l'appareil photo. Le regard est vraiment au loin, vous regardez l'horizon. Et vous tenez entre les mains
un oiseau. Et donc l'idée aussi, c'est toute cette raideur dans ma position et qui lorsqu'on la compare à la position de mes mains, qui elle est très douce et très protectrice, je tiens cet oiseau comme un bien d'une valeur inestimée parce que c'est il représente justement ça.
Oui, il y a vraiment une dimension protectrice dans la façon dont vous tenez cet oiseau. Et on voit dès la couverture le côté extrêmement perfectionniste que vous avez dans ces photographies. Alors, je sais pas jusqu'où vous pouvez aller justement dans la révélation de vos secrets de fabrication, Omar Victor Diop. Mais on a l'impression que vous avez dû passer des heures et des heures à retoucher, non?
Ah oui, absolument. Cette série a pris environ 2 ans et demi à faire. Une longue période pour la conceptualisation, bien entendu, et ensuite la retouche, plusieurs versions. Je crois que je regardais mes disques durs hier, et en fait, il y a 9 versions de cette série, c'est la 9e que nous montrons. Et j'en profite aussi au passage pour remercier un cabinet de retouche publicitaire, Cleverize, qui a fait la dernière étape de la retouche parce que je voulais un rendu justement pour en revenir à l'article du New York Times dont nous parlions. Je voulais un rendu de conte de fées. Je voulais vraiment quelque chose de très Disney, de très léché.
Mais qu'est-ce qu'il faut gober, Omar Victor Diop? Qu'est-ce qui, à chaque fois, ne vous satisfait pas au point de dire que l'ordinateur doit intervenir pour corriger?
En fait, c'est la démarche est différente. À vrai dire, j'utilise le terme retouche parce que je ne trouve pas d'autre façon de le dire, mais c'est pas vraiment de la retouche. Je ne cherche pas à retoucher une réalité, je cherche à en créer. Donc en fait, c'est ma façon de peindre, c'est ma façon de rajouter du pigment comme un Velázquez le ferait. Et donc en fait, je n'enlève pas, je rajoute. J'ajoute du drame, j'aime bien dire ça, à une image.
Du drame, de la dramaturgie.
Oui.
Vous êtes donc peintre, d'une certaine façon. Vous êtes donc photographe, Omar Victor Diop. Est-ce que vous êtes aussi comédien?
Alors, oui. Enfin, j'imagine que il y a une performance, surtout dans Allegoria. Il y a un jeu d'acteur, oui, en ce sens-là, oui, peut-être qu'on peut dire que je suis comédien dramatique.
Oui. Alors, un comédien, ça sait capter la lumière, un petit peu comme le sujet pour un photographe, d'ailleurs.
Absolument,
c'est le même métier.
C'est ça.
Bon, et puis il y a aussi le papier, parce qu'il est très très beau, le livre, mais il y a aussi des tirages qu'on peut admirer, donc, jusqu'à dimanche au Grand Palais Éphémère. C'est important, le choix du papier, la qualité. On va pas citer la marque, mais c'est indiqué très clairement.
Oui. C'est important, et vous savez, j'en parlais d'ailleurs avec l'équipe de la galerie Magnin A. On s'est rendu compte finalement que c'est pas nous qui choisissions le papier pour l'œuvre, c'est l'œuvre qui choisit son papier. Alors on va toujours chez l'imprimeur avec une idée très claire. Oui, on va imprimer sur ça, ça va marcher. En plus, pour les encadrements, ce sera plus facile. Mais en fait, non. Il y a toujours dans les tests le papier qui s'affirme. Et on s'adapte à... C'est l'œuvre qui nous dit que elle sera plus belle sur ce papier plutôt que sur un autre.
Alors, il y a justement, à l'occasion de ce Paris Photo, un site internet sur lequel on peut s'inscrire pour voir les photos, même à l'autre bout du monde. Et là, il n'y a plus justement cette dimension papier. Comment est-ce que, en tant que photographe, vous gérez justement l'exposition de vos œuvres à travers les écrans?
Alors, ce qu'il est important de faire, c'est d'harmoniser en général les fichiers qui sont prêts à imprimer. On les récupère de chez l'imprimeur et on en réduit la résolution, et c'est ça qui part après en circulation pour s'assurer une certaine uniformité dans les teintes. Surtout que les procédés sont pas du tout les mêmes, les langages de codification des couleurs ne sont pas les mêmes. Bon, je vais pas entrer dans les détails,
Vrai que voir vos photos en vrai, en grand format, sous le dôme du Grand Palais Éphémère, les voir dans le cadre de cette photographie, donc sur un format assez traditionnel, ou les voir sur un écran d'ordinateur ou a fortiori sur un écran de téléphone portable, c'est pas du tout la même chose.
Non, c'est pas du tout la même chose. Non, il faut savoir l'anticiper. Ça aussi, ça répond à la question par rapport au choix du noir, parce que ça simplifie aussi beaucoup de choses, quoi. Donc on s'adapte au numérique.
Merci beaucoup Omar-Victor Diop. Allegoria, votre nouvelle série, est donc présentée, je le répète, à Paris Photo au Grand Palais Éphémère jusqu'à dimanche. Et je rappelle aussi donc la monographie qui vient de sortir en coédition Galerie Mania à 5 continents édition. Merci beaucoup. Et puis dans un instant, on va continuer notre voyage dans l'art contemporain africain, dans le Café Gourmand de VMDN, avec la foire Aka qui se déroule ce week-end au carreau du Temple. Marjorie Bertin verra nous en parler. Et puis avec un autre aussi spécialiste de l'autoportrait, un grand photographe, Samuel Fosso. C'est Fanny Blechner qui viendra dans une poignée de secondes, juste après la pause musicale.
Say one and go come on. Hallelujah, Romania, mom. Yali gay lumeli amulo morom. Ashef you barti money I borom. Muna to de money moyaro. Saligela. Achale bile money moyaro. Saligela. Muna to de money moyaro. Warna la ci koñ bi kenn melni yow sayuma la sene xol bi dal ci yow ha mane yalla samla he mane yalla samla toy ngama ci kerse woni ngo komom hallelujah rumani amom yalla geelu melni amulo morom askef you back ye money ay borom fulula to de mane moyaro
dans VMDN sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Marjorie Bertin, Fanny Blechner et Sébastien Gédor, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour François.
On va continuer avec l'Afrique, hein, Café Gourmand, 100% africain aujourd'hui et pas seulement sénégalais. Sébastien, après Las, après Omar Penn tout à l'heure, après Omar Victor Diop évidemment, vous allez nous régaler les oreilles avec le groove d'un jazz band camerounais.
Oui, tout à fait, il s'appelle Étienne Mbappé, son album Time Will Tell, et il est en concert avec une musique mélancolique et entraînante aussi, parfois au Sunside à Paris.
Un autre Camerounais également à l'honneur dans un instant, Fanny, un Camerounais qui est aussi nigérian, hein, qui est aussi, d'ailleurs, comme Omar Victor Diop, un habitué des autoportraits.
Oui, même un maître de l'art, Samuel Fosso, l'artiste qui vient en Centrafrique. Voilà 45 ans qu'il se met en scène et il a tout fait, hein, de Martin Luther King à Mao, en passant par le pape. Vous verrez qu'il y a aussi des clichés plus intimes dans la rétrospective qui lui est consacrée à la Maison européenne de la photographie à Paris.
Et pour commencer, Marjorie, vous avez fait un voyage presque immobile sur le continent. Vous avez assisté hier au vernissage de la 6e édition d'ACAA, also known as Africa, la seule foire d'art contemporain et de design de France, entièrement dédiée à l'Afrique. Donc, ACAA qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. On est au cœur, hein, de la capitale française, au carreau du Temple.
Oui, le carreau du Temple qui se fait carrefour du monde de l'art contemporain, car la foire accueille une centaine d'artistes et 34 galeries internationales. Alors, les vernissages pour les artistes, c'est des moments importants où ils sont fébriles, heureux et très impatients, comme Adrien Bitibali, un Burkinabé, représenté par Ecos Project, qui expose Black Volta Moon, des photographies troublantes, chargées de mélancolie, prises en pirogue, car toutes sont des reflets de la rivière Moon, aussi appelée la Volta Noire, comme si les reflets étaient un intermédiaire entre nous et la vie. C'est très méditatif, mais Adrien Bitibali attend beaucoup de cette édition.
J'attends une réussite, comme la première.
Qu'est-ce qui s'était passé?
C'était une première pour moi, mais j'ai senti un engouement autour de mon travail. J'ai eu des gens qui se sont vraiment intéressés à mon travail. C'était inattendu, donc du coup intéressant. Et donc la seconde fois, du coup c'est attendu. Donc, c'est ce qui fait la différence, voilà.
Et ces attentes, Armelle Dakouo, la directrice artistique d'ACAA, en a bien conscience évidemment.
Il faut savoir qu'une foire d'art contemporain, c'est une plateforme commerciale d'abord. Donc c'est vrai que c'est l'occasion pour des galeries, sur un temps très court, de présenter leurs artistes et de rencontrer, effectivement, en termes de développement de réseaux, de collectionneurs, des institutions, des fondations. C'est un temps fort commercial pour eux parce que ça représente du coup en général de nouvelles rencontres, de nouveaux réseaux et donc forcément des ventes en très peu de temps.
Et vous avez rencontré justement des collectionneurs, Marjorie ?
Oui, notamment un qui ne perdait pas son temps.
Je suis français, j'habite à Hong Kong, je suis un expert en art contemporain chinois, j'écris plusieurs livres et je m'intéresse à toutes les scènes émergentes, donc y compris l'Afrique, mais c'est l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Voilà, et je collectionne beaucoup de tableaux et j'ai environ 3000 tableaux. Et là, je viens d'acheter un tableau chez Lara Sedbon, une jeune artiste qui fait des plaques de plexiglas colorées, superposées. Je trouve ça très très beau. Je crois qu'elle vient du Sénégal. Les prix sont raisonnables, c'est 4000 euros. Voilà. Moi, je pense que c'est un bon niveau et il y a pas mal de découverte. Donc, je suis rentré il y a 30 minutes, j'ai déjà acheté un tableau.
Bon, 3000 tableaux, c'est quand même impressionnant.
C'est
vous
n'avez
pas ça dans votre salon, Sébastien.
En tout cas, non, j'en ai un peu moins. J'ai moins de surface peut-être aussi, mais c'est un jeune homme pressé. Hein.
Oui,
c'est
oui, l'air.
Effectivement.
Bon. Très pressé.
Alors, puisqu'on en est aux chiffres, justement, Marjorie, il y a beaucoup d'installations au Forum du Temple.
Mais non, pas tellement. Il n'y a pas de prédominance particulière dans les thèmes. Alors, on retrouve beaucoup de portraits, peut-être une conséquence du confinement. Et puis, ça s'inscrit aussi dans cette tradition africaine dont on parlait au début de l'émission. Certains peintres y comme Olga Yameogo, j'ai flashé sur la peinture de cette Burkinabé extraordinaire, art-thérapeute de profession. Elle vit à Toulouse, la ville rose, dans une couleur dont elle s'inspire autant que des ocres de sa terre natale.
Et on peut dire que son métier influence ses toiles alors?
Ah ben c'est frappant, hein. Ses portraits exposés par la galerie ivoirienne Véronique Riffel sont des pastels, des peintures, des portraits de proches, légèrement flous et empreints de douceur. Olga Yameogo est très émue d'exposer à ACAA.
C'est la première fois que ma galeriste me présente à ACAA. D'être à ACAA, pour moi, c'est, comme je dis souvent, j'étais très heureuse d'avoir été choisie parce que c'est reconnaître que ma double culture ne m'a pas enfermée. Au contraire, ces deux continents qui me portent, ben, ils peuvent être aussi représentés.
Olga Yamehogo à votre micro. Marjorie, il y a beaucoup d'artistes issus de la diaspora au Carreau du Temple.
Oui, en fait, les artistes Dakar revendiquent un lien fort, pas nécessairement géographique, avec l'Afrique. C'est surtout une question visuellement frappante d'influence et d'imagination, comme le fait avec brio Hélène Jaillet. Dans Ma tribu imaginaire, elle dessine des femmes maliennes constituées de points et de fils noirs qui font des constellations sur lesquelles elle vient mettre des touches de couleurs très belles qu'elle met en scène dans des situations rurales, comme chercher l'eau ou vanner le mil.
Moi, je suis franco-malienne et la galerie est en Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'était important d'avoir une galerie à Paris et une galerie en Afrique. Je trouve que quand on est des deux continents, eh ben, il faut se déployer sur les deux continents.
Qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui ?
Alors, j'expose une série qui s'appelle « Ma tribu imaginaire ». La plupart des pièces ont été réalisées à Bamako, au Mali, en résidence en 2019, lors de la Biennale de Bamako de photographie. Et c'est une série qui parle, en fait, de ma famille malienne que je connais pas, puisque moi, je suis une enfant adoptée. Et j'ai pas tellement envie de savoir qui, mais j'avais besoin de savoir où. Donc, je suis allée plusieurs fois faire des voyages, exposer là-bas, faire la Biennale. Et c'était quand même mon rêve d'enfant. C'est un faux album de famille, en fait. Je saurais jamais qui, mais en fait, cet album imaginaire, il me donne beaucoup de force, en fait, beaucoup de paix aussi, et il fait rêver beaucoup de gens.
Et il n'y a que des femmes dans cette galerie, Marjorie ?
vous ne croyez pas si bien dire. J'ai demandé à Véronique Riffel si c'est le fruit du hasard.
Ce n'est pas du tout un hasard, comme vous pouvez l'imaginer. En ce moment, il y a un grand mouvement de revalorisation des femmes dans l'art contemporain et dans l'histoire de l'art. Et en tant que commissaire d'exposition, critique d'art aussi, c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. Et donc là, c'était vraiment un parti pris de montrer la puissance féminine à travers des artistes vivantes, une Guyanaise, une franco-malienne et une burkinabé. Ce sont des artistes qui ont comme point commun, outre le fait qu'elles sont toutes les trois dans la figuration et dans des univers assez étranges et où elles détournent certaines techniques, sont des artistes évidemment de grands talents. Certaines, comme Olga Yamehogo, qui a un talent incroyable mais qui n'a jamais complètement assumé d'être artiste. Là, j'ai vraiment envie qu'elle puisse être artiste à temps plein, en vivre et se débarrasser de ses complexes en tant que femme artiste.
Alors, ce n'est qu'un aperçu des merveilles que l'on peut voir à Accra. J'aurais adoré vous parler aussi des portraits de femmes gravés sur bois de l'américaine Latoya Hobbs, du congolais Aristote Mago qui détourne des sacs de jute semblables à ceux qu'il vendait quand il était petit sur les marchés, ou du portoricain Rafael Trieliès qui peint des portraits surréalistes flottant dans des forêts étranges et violacées. Il y a énormément à voir et on peut d'autant plus en profiter que c'est gratuit et accessible à tous. Donc, si on ne peut pas acheter les tableaux, on pourra au moins les voir.
Si on n'a pas assez de murs.
Voilà.
Accra, la seule foire d'art contemporain et de design entièrement dédiée à l'Afrique en France, c'est donc jusqu'au 14 novembre au Carreau du Temple à Paris. Merci Marjorie. Quant à vous, Fanny, vous avez eu donc la chance de rencontrer Samuel Fosso. Samuel Fosso, grand photographe s'il en est, né au Cameroun de parents nigérians, à qui la Maison européenne de la photographie à Paris consacre en ce moment une rétrospective.
Oui, et c'est la première en France. Elle retrace dans l'ordre chronologique tout le parcours de l'artiste et ça commence dès les années 70. Samuel Fosso, il va ouvrir son premier studio photo à Bangui, en Centrafrique, à l'âge de 13 ans. C'est en 1975, ouais, 13 ans seulement. Son slogan, attention, ça fait rêver, surtout quand on n'est pas très photogénique comme moi. Alors, je cite...
Oh,
non, c'est vrai.
N'importe quoi. Elle dit ça peut-être juste pour comme, qu'on se réécrit.
Peut-être comme vous aussi également, je ne sais pas. Alors, je...
Ah bah merci,
je suis très photogénique.
Bon, on fera une photo à la fin de l'émission et on la mettra sur les réseaux sociaux grâce à Baptiste
sur
Antoine.
Pièce. Alors, je cite le slogan de ce studio. Avec Studio National, vous serez beau, chic, délicat et facile à reconnaître. Les studios, ça se fait beaucoup à ce moment-là pour réaliser des photos de famille, entre amis, et puis parfois il reste quelques clichés sur les pellicules.
En fait, je prenais les photos des clients, je n'allais pas finir la bobine de la photo, et s'il restait peut-être les deux, un à deux poses, je me fais faire moi-même, c'est-à-dire je me fais filmer, comment on dit, photographier, je me filme moi-même. La deuxième chose, c'est aussi de le faire en voyant à ma grand-mère. Parce qu'on était quand même un peu distancés. J'étais en Centrafrique, lui au Nigeria. Et ça fait des années qu'on ne s'est pas rencontrés. Et donc, une façon pour moi aussi, c'est la possibilité, je vois quelqu'un qui veut aller au Nigeria, et je prends cette photo, je le remets pour qu'il remette à ma grand-mère, pour qu'elle sache que je suis toujours là, vivant.
Et donc Samuel Fosso fait comme Omar Victor Diop. Il se prend lui-même en photo avec un retardateur, c'est ça?
Oui, exactement. Alors ce sont des photos en noir et blanc sur un fond peint, d'ailleurs reproduit à la MEP, où on peut soi-même se mettre en scène si on veut. On le voit donc avec pantalon pas de def, des chemises à fleurs, à la panoplie de l'époque, quoi, expérimenter toutes sortes de poses.
Moi, on appelait ça de prendre des poses, parce qu'on cherche une pose qui peut être attirante. Et en plus, je le fais aussi... Et pour montrer aussi les clients, que beaucoup de clients qui ne savent pas se poser, parce que souvent quand tu arrives au studio, ils te disent, mais il faut me faire poser bien, parce que je ne veux pas que les gens se moquent de moi, que je ne sais pas poser sous la photo. Pour nous, en Afrique, ce qu'on comprenait comme l'art, c'est la peinture, des dessins ou des sculptures. On dit, voilà, mais pas la photographie.
Ouais, et pourtant, c'est bien de l'art, Fanny.
Oui, ça rappelle notamment les photographies de mode. Samuel Fosso, il va petit à petit se faire un nom. Et puis, dans les années 90, en 97 précisément, pour les 50 ans de sa marque, le magasin Tati fait appel à 50 photographes, parmi lesquels Malik Sidibé, Sedou Keita, on en parlait tout à l'heure, et puis donc Samuel Fosso.
Sedou a commencé à filmer. Après, Malik a fini à filmer, c'était moi. Et moi, j'ai trouvé les choses un peu bizarres, je lui dis non. Au fait, bien sûr, j'ai le studio, mais je peux pas faire comme le studio. J'ai demandé la directrice de la photographie que Tati a pris. Je lui ai dit, mais est-ce que je peux changer mes thèmes? C'est-à-dire, je vais faire autoportrait en plus en couleur. Et je dois avoir d'abord l'arrière-plan, des peintures comme mon studio. Les gens amenés, c'est pas de problème. Et les habits, parce que je voulais faire mémoire des Américains noirs, un titre comme La femme américaine libérée, et Godfair. Et en plus, le chef d'Afrique qui a vendu l'Afrique.
Et donc là, il faut imaginer de grands autoportraits en couleur où il est grimé grâce aux accessoires et aux vêtements fournis par l'enseigne. Samuel Fosso, il va incarner différents archétypes. Il le disait, il y a donc la bourgeoise, le maître-nageur, le golfeur sur un fond très chamarré et puis la silhouette androgyne de la femme américaine libérée des années 70.
On attend le journaliste radio un de ces jours. Alors des personnages donc, en tout cas, un peu fantasmés, hein, Fanny, mais l'artiste s'est aussi mis dans la peau de personnages plus réels.
Dans la peau du pape, par exemple. Il a fait appel pour cela au d'ailleurs du Vatican, une façon
en fait,
il porte ses vêtements et c'est une façon pour lui d'interroger l'invisibilisation africaine à la tête du clergé.
Parce que la réflexion de l'artiste, elle est aussi, Fanny, elle est aussi politique, on peut dire ça comme ça?
Oui, c'est ça, c'est notamment visible dans sa série African Spirit, dans laquelle il incarne des visages plus ou moins connus du panafricanisme et de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, de Malcolm X à Nelson Mandela, en passant par Patrice Lumumba ou encore Angela Davis.
C'était pour moi une opportunité, en tant que photographe reconnu déjà, artiste, comme on dit, il faut que je profite de cette occasion de les faire ressortir et ce que je considère qu'ils sont classés, personne ne parle d'eux, pour qu'on puisse quand même peut-être un jour, ça serait dans les musées, et les gens vont maintenant connaître, et la génération noire africaine qui ne connaît même pas ces histoires, profiterait de cette occasion pour connaître à ces gens.
Il y a donc la grande histoire, visible aussi avec sa série d'autoportraits en Mao ou encore en tirailleurs sénégalais. Et puis il y a aussi l'histoire plus intime, par exemple une série de photos en noir et blanc. On le voit presque nu dans un appartement, dans une situation de vulnérabilité, pour évoquer la nuit de la mort de son ami Tala, c'était à Bangui en 1997.
Au fait, c'est une nuit que les hommes de l'armée étaient venus essayer de voler. Le magasin, il avait des magasins, c'est même ça, devant son magasin. Essayer de les voler, mais il a résisté un peu, ils ont des armes. Ils ont tiré sur lui, et il était mort. Et alors, comme on était tellement voisins, c'est le mur qui nous sépare. Donc, j'écoutais tout ce qui se passait, je me suis réveillé à la hâte, apparemment les bruits, et je commence à écouter ce qui s'est passé jusqu'à attendre le coup de feu. Et puis ils sont partis.
Voilà, beaucoup d'émotions dans sa voix. Et puis un autre événement dramatique qui a aussi marqué le parcours d'artiste de Samuel Fosso.
Oui, son studio photo et sa maison de Bangui ont été vandalisés en 2014 lors de la guerre civile. Il s'est fait voler tout ce qui s'y trouvait, tout son travail. On imagine évidemment le traumatisme. Ses archives brûlées, plus de 15 000 négatifs et clichés ont été endommagés ou perdus, même si certains ont pu être retrouvés ensuite par des journalistes. C'est après cette dépression qu'il a réalisé sa série 666, une série de son visage en très gros plan cette fois, dévoilant toute la palette des émotions.
Une dernière chose, Fanny, Samuel Fosso, il aurait bien pu avoir une destinée complètement différente.
Oui, en fait, il a failli devenir guérisseur et chef de village, comme son grand-père le souhaitait. Un grand-père qui a réussi à le guérir de la paralysie des membres inférieurs dont il souffrait à la naissance et face à laquelle les médecines modernes étaient apparemment impuissantes.
Effectivement, mon grand-père était chef d'abord, chef de village et grand guérisseur. Et lui, je suis d'abord son premier petit-fils. Et je portais aussi son nom. Et donc, lui, personnellement, il voudrait que, normalement, que je sois son héritier. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Et de là, la guerre Biafra était venue, qu'on était en fuite. Pendant 3 ans, on était en bourse. Mais au retour, je suis toujours avec lui à tout moment. Mais au retour, on a fait seulement même pas un an. Il est mort. Et quand il était mort, et c'est là mon oncle a demandé pour que. A demandé à ma grand-mère pour qu'il m'amène. Et c'était comme ça qu'on était sorti. J'étais sorti jusqu'au Centrafrique.
Des événements tragiques qui ont changé le cours du destin, mais qui ont fait de lui le photographe d'exception qu'il est aujourd'hui.
Samuel Fosso, exposition à découvrir à Paris, à la MEP, la Maison Européenne de la Photographie. Alors, vous avez le temps, si vous passez à Paris dans les semaines ou les mois qui viennent, puisque l'exposition se termine le 13 mars.
Nombu sami mule maboti boti.
Du jazz qui rime avec voyage à présent au Café Gourmand de VMDN avec Étienne Mbappé et son nouvel album Time Will Tell. Sébastien, le bassiste camerounais, est en concert jusqu'à demain soir au Sunside à Paris avec une nouvelle formule magique.
Oui, c'est la formule trio. Étienne Mbappé, 57 ans, a été musicien attitré de Salif Keita, Jacques Higelin, José Avinul, je vais m'arrêter là. Le bassiste se produit souvent avec un groupe de 7, on dit un septet, je crois. Oui. Et là, ils sont 3, un trio proche de la perfection, baptisé Neck Plus, les initiales des prénoms de Nicolas Vicaro à la batterie, Étienne Mbappé à la basse, donc, et Christophe Cravero au piano et au violon. Un trio, bien sûr, ça donne plus d'espace qu'à 7, nous dit Étienne Mbappé, même si chez lui, l'improvisation est travaillée.
J'aime que l'écriture, à un moment donné, sonne comme si c'était de la liberté, en fait. Et évidemment qu'elle soit très, très répétée et tout ça. Et je pense que plus on répète, on va vers la perfection. Ça, c'est un dicton qui dit ça. Mais en même temps, on va aussi vers la liberté. C'est-à-dire qu'on connaît tellement le truc qu'on arrive justement à s'en extraire pour mieux y revenir. Voilà. Et c'est dans cette forme-là que ce trio est né. Et je dois préciser aussi que le trio est né pendant qu'on ne pouvait pas se voir, pendant le premier confinement. Et donc, voilà. Nous envoyons des fichiers comme ça en disant, qu'est-ce que vous pensez? Donc voilà, à travers les fichiers, il fallait déjà imaginer ce que ça pouvait, comment ça pouvait sonner, et pour éventuellement se ménager de gros espaces de liberté aussi.
Mais en fait, en musique, Sébastien Étienne Mbappé cherche à maîtriser l'incertitude.
C'est bien résumé. Hein. Pourtant, l'incertitude est bien là, jusque dans le titre de ce 5e album, Time Will Tell, traduction approximative. Vous allez voir, il y a plein de quiz comme ça. Ouais. Time Will Tell, c'est l'avenir nous le dira.
Oui, ça j'aurais trouvé. Oui.
Voilà, reflet. Vous allez voir, ça va se compliquer après. Reflet de la période troublée qui a vu naître le disque.
C'est-à-dire qu'à l'époque où personne, le gouvernement nous disait que les masques n'étaient pas importants, et puis finalement ils le sont devenus, et il y avait une espèce de cafouille, il y avait surtout les plateaux télé qu'on regardait tous avidement en disant qu'est-ce qui va nous arriver. Il y avait 4 médecins qui se contredisaient les uns les autres. Si eux se contredisent, eux qui connaissent la science de la médecine, nous, où est-ce qu'on en est? Donc tout le monde a commencé à aller fouiller, on était dans le flou total, et c'est de ça qu'est qui est venu donc le fameux titre Time Will Tell. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, le temps nous le dira, on ne sait toujours pas.
Bon, heureusement, malgré les incertitudes dues au Covid, les concerts ont repris, Sébastien. Cela dit, les spectateurs qui viendront écouter Étienne Mbappé pourraient être un peu surpris.
Oui, par ce morceau notamment. Écoutez bien les premières notes et puis vous allez me dire à quel style ça vous fait penser.
C'est
tambour. Ces tambours, ça vous rappelle quand même le Sénégal, l'emblématique musique Mbalar.
Oui.
Bon, c'est pas vraiment le jazz d'Afrique centrale, j'avoue, j'avais un piège.
Oui.
Le titre Sama Harit en wolof, ça veut dire mon copain, mon ami. Je vous avais dit que ça allait se compliquer.
Oui, là, j'aurais jamais trouvé. Oui.
Et là, l'explication de texte est signée Étienne Mbappé.
C'est un morceau que je l'ai dédié à un ami sénégalais qui s'appelle Habib Faye, vraiment un frère bassiste que j'ai connu il y a très très longtemps, bassiste notamment du Super Étoile de Youssou N'Dour, quelqu'un que j'adorais et qui a disparu. Et voilà, je voulais vraiment lui dédier ce morceau-là et lui dédier avec le rythme, un rythme que j'adore, qui est un rythme de chez lui, donc le Mbalar. J'ai écrit le morceau et voilà, l'inspiration Mbalar est arrivée quand j'étais en train de faire l'intro. Et tout de suite, j'ai entendu l'espèce de clave Mbalar et je me suis dit, ah, c'est comme ça qu'il doit sonner. Ce rythme-là, je ne l'ai jamais traité dans aucun de mes albums. Mais c'est un rythme que j'adore et que quand je vais au Sénégal, j'essaye même parfois de danser. Les rythmes sont tellement différents, de mon Cameroun natal à l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Enfin, voilà. Et j'aime de temps en temps aller expérimenter des rythmes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des rythme de mon chez-moi, Cameroun, et ça me donne toujours une ouverture, une autre inspiration qui fait que, même pour mon travail, j'ai l'impression de ne pas faire la même chose, donc d'être toujours un peu sur le coup.
Bon, mais qu'on ne s'y trompe pas, Sébastien, il n'y a pas que du Mbala sur Time Will Tell.
Ah non, pas du tout, il y a des instrumentaux beaucoup plus mélancoliques pour dire l'amour de la vie, l'amour des femmes, mais aussi la solitude ou la nostalgie, avec trois titres chantés en anglais ou en langue douala du Cameroun, car le bassiste Étienne Mbappé n'a pas peur des mots.
Même quand je pense jazz, même quand j'essaie de faire un disque jazz, je suis toujours rattrapé par un côté un peu message, c'est-à-dire quelque chose que les gens comprennent, c'est-à-dire des mots en fait. Voilà, j'adore raconter des histoires, j'adore, je pense avoir assez, un peu vécu aussi pour ça, pour avoir emmagasiné quelques souvenirs, quelques histoires, quelques couleurs, quelques saveurs, quelques odeurs que j'ai ramenées, glanées par-ci par-là. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de chanter. Ça donne encore une coloration. En fait, à trois, il faut trouver des astuces pour que ça ne sonne pas non plus monotone. Donc tout ça pour diversifier un peu le côté trio. C'est pas, on ne se veut pas que trio, jazz, voilà. Nous sommes ouverts à tout.
London et Longhi, un des morceaux en douala d'Étienne Mbappé. Alors vous traduisez un petit peu comme le Wolof tout à l'heure,
mais
Sébastien.
Bien sûr, je suis revenu avec un gros dictionnaire. C'est une expression pour dire qu'on avance en ayant confiance en son destin.
Alors, on va terminer par une dernière petite colle. Vous avez la réponse, et moi aussi, puisque vous l'avez soufflé tout à l'heure, Sébastien. Mais pour Marjorie et Fanny, est-ce que vous savez quelle est la particularité d'Étienne Mbappé quand il joue de la basse?
Tic-tac, tic-tac.
Il fait une tête bizarre.
C'est super dur. Non,
non, pas du tout. Réponse, Sébastien.
La réponse. C'est trafiqué.
Non, non, c'est pas trafiqué. Mais il joue avec des gants noirs. On pourrait dire que c'est plus difficile de jouer de la basse avec des gants, mais pas du tout.
Des gants, pas des mitaines.
Non, des gants noirs, des vrais gants. Et c'est devenu la carte de visite d'Étienne Mbappé, ces gants noirs.
Oui, c'est vrai que les gants aujourd'hui font partie de ma personnalité. Oui, je joue toujours avec des gants parce que les gants me procurent procurent une sonorité à ma basse et à mes oreilles, que j'aime beaucoup. Voilà, une sonorité un peu plus feutrée. Le son devient un peu plus épais, plus gros, juste avec ce bout de tissu. Donc voilà. Et c'est des gants de soie qui sont très très fins, dont je garde quand même la sensibilité au niveau des cordes. J'ai toujours des cales. Alors d'aucuns y voient des messages et je vous avoue que je reçois toujours, jusqu'à aujourd'hui, par mois, je reçois toujours une 5, 6, 7, peut-être même une dizaine de messages qui m'arrivent du monde entier. Des gens qui me posent des questions en me demandant si j'ai une allergie et des gens qui, eux, ont parfois des problèmes de dystonie, une maladie que je connaissais même pas, et qui me posent des questions là-dessus. Moi, je leur dis non, c'est pour le son. Si vous êtes malade, référez-vous à un médecin, je n'en suis pas.
Étienne Mbappé n'est pas médecin, et pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'est pas footballeur non plus, aucun lien de parenté avec un certain Kylian, mais c'est un virtuose aussi dans son domaine, et sa musique, à défaut de guérir, fait énormément de bien. Elle habille nos émotions, nos sentiments, que demander de plus?
Merci Sébastien.
RFI, la sélection.